Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Paul Curnier, qui publie deux livres. Montrer l'invisible, écrit sur l'image aux éditions Jacqueline Chambon, et Le commerce des charmes, une coédition Ligne et le 104. Il fait peur par ces temps. Comme on dirait, il fait froid ou il fait sombre. Pas facile à présenter, Jean-Paul Curnier, car vous n'avez pas, à proprement parler, choisi le droit chemin. Vous êtes à la fois philosophe, écrivain, théoricien de l'image, mais aussi analyste de l'actualité, auteur de films, d'écrits sur le théâtre, sur la danse. Bref, on ne sait pas à quoi vous ne vous intéressez pas.
Oui. Ce sont autant de tentations, en quelque sorte, quoi. Disons que voilà, je ne me suis pas dérobé à la tentation de faire certaines choses que je ne savais pas faire, et en tout cas de vivre ces engagements-là, engagements dans l'écriture la plupart du temps.
Mmh. 15 livres, hein, une quinzaine de livres que vous avez publiés jusqu'à présent.
Oui, c'est cela, oui. Alors, les livres, oui, c'est chaque fois une écriture qui engage, dans le sens qu'il y a... À la sortie du livre, je ne parle pas de sa sortie en librairie seulement, mais à son extériorisation, il y a quelque chose de neuf de soi et qu'on ne peut même pas pressentir. Ça, c'est extraordinaire.
Les livres que vous publiez sont des livres qui sortent des sentiers battus, indéfinissables, comme vous-même.
Alors, oui, je crois aussi que... Bon, ce sont les livres d'une façon de voir, peut-être, oui. D'une façon d'être et de voir, qui est d'ailleurs complètement rassemblée, enfin, qui n'est pas séparable, la façon d'être et de voir. Et donc, ces livres sont les livres de cela. En quelque sorte, ça veut dire que parfois, ils peuvent approcher l'écriture d'un tel ou un tel ou une telle. L'approcher, mais alors c'est comme dans les sympathies. ce sont des sympathies de regard sur le monde, sans doute. Mais on ne peut pas dire non plus que ce soit construit comme une sorte de monument théorique ou quelque chose qui est la volonté de faire œuvre. C'est plutôt la volonté d'un parcours.
Ce qui rassemble tous ces livres, finalement, c'est peut-être le choix que vous avez fait de les publier chez des éditeurs qu'on appelle petits éditeurs, qui sortent du système éditorial, en particulier parisien.
Oui, alors est-ce que c'est un choix? Je dirais que les situations s'étant présentées comme ça, je n'ai rien opposé à cette situation. Mais je ne les ai pas pour autant cherchés. Je crois qu'on s'est mutuellement cherchés. Enfin, les choses se sont faites comme j'aime bien qu'elle se fasse, c'est-à-dire avec le moins d'efforts possible. Mmh. Et avec le plus, je dirais, de naturel laissé à la logique des choses.
Ouais. Si je prends, par exemple, quelques titres très récents, je vois que vous avez publié chez Farago, chez Léo Cher, chez Ligne Manifeste, puis Ligne tout court. Aujourd'hui, Ligne avec le 104. Et également... Jacqueline Chambon, pour ce livre « Montrer l'invisible » dont nous allons parler ce soir.
Oui, c'est... J'ai toujours considéré, bon, sans vouloir, je veux dire, flatter outre mesure les uns des autres, mais j'ai toujours considéré qu'un livre se faisait avec un éditeur. Bon, c'est, le texte lui-même n'est pas fait avec l'éditeur, ça va de soi. Il est fait avec autre chose, avec le monde, avec soi, avec les gens, etc. Mais, ou avec quelques amis en visée, en perspective. Mais pour ce qui est du livre lui-même, il se fait avec l'éditeur. Donc c'est quand même le moment de l'existence d'un texte qui n'est pas rien du tout. Et ça crée quand même une relation. Alors ce sont des relations qui ont pu être amicales ou pas amicales, qui ont pu se défaire ou même se continuer pour certains, comme c'est le cas avec Michel Suria et
Ligne. Sermondi.
Oui, pour Ligne, donc. Voilà. Mais en fait, de toute façon, ça n'efface pas le fait que la création d'un livre, c'est la création d'un livre à partir d'un texte. Ce n'est pas la création du texte, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui n'est que. C'est quelque chose.
Vous n'avez pas le sentiment que ce rapport privilégié qu'on peut avoir avec un éditeur, aujourd'hui, tend à se raréfier, à tenter plus?
Oui, ça explique en partie, enfin, ça répond en partie à votre question, c'est-à-dire que si ces éditeurs sont ce qu'on appelle des petits éditeurs, ou en tout cas en marge du gros marché de l'édition, c'est aussi parce que cette relation peut y exister et peut s'y développer. Je ne peux pas prétendre, en écrivant ce que j'écris, vivre économiquement de ce que je fais. Ce ne serait pas très sérieux. Ou alors, mes livres seraient, totalement erronés de fond en comble, ce que je dis. Donc, je pense que, dans ce cas-là, ça peut être que des amateurs, entre guillemets, de ce genre d'écriture, et que donc nous partageons aussi le sens profond de ce que nous faisons. Et ça, c'est extrêmement, oui, c'est vrai, c'est extrêmement menacé. Enfin, d'une certaine façon, c'est en perte d'horizon, ça disparaît de l'horizon. Mmh. Alors, on s'appuie peut-être sur des relations qu'on a et sur lesquelles il n'y a pas trop à réfléchir, parce que je crois que c'est essentiel pour certains livres qu'ils soient faits dans une entente sur le fond, c'est-à-dire de ce que porte le livre, et pas seulement pour créer un objet qui va se trouver dans un commerce, parce que ça, alors... Je pense que ça concerne ceux qui peuvent espérer une fortune de leur écriture, mais ce n'est pas la même chose dans l'écriture. Enfin, ce n'est pas l'endroit où je suis, de toute façon.
Montrer l'invisible, Jean-Paul Curnier, paraît donc dans la collection Rayon Philo, des éditions Jacqueline Chambon, et il a un sous-titre écrit au pluriel sur l'image. L'hypothèse sur laquelle vous ouvrez ce volume, c'est que nous ne sommes pas pour rien dans les images que nous voyons.
Oui, il m'a fallu d'ailleurs au moins les deux premiers chapitres pour arriver à dessiner un peu plus nettement le contour de cette hypothèse. Cette hypothèse dit que finalement, et c'est cela peut-être qui rendrait d'ailleurs très difficile notre... difficile d'aller loin dans le sentiment d'être abusé par les images. On peut le dire, mais au fond, ce n'est pas très clair, ça. Se sentir abusé par les images, qu'est-ce que cela signifie ? Ça voudrait dire qu'elles nous sont extérieures, qu'elles nous séduisent ou qu'on nous trompe par l'usage, etc. Donc on voit... tout de suite, l'usage qui a pu être fait depuis très longtemps de cette idée d'un détournement par la séduction. Enfin, ça va donc de Platon et les poètes jusqu'à Guy Debord. Et ça demeure quelque chose qui relèverait donc d'une intégrité de l'individu qui est comme ça bousculé, détourné, manipulé. Et voilà, l'hypothèse que je fais, au contraire, est que l'image n'existe à partir d'un support visuel, comme pour appeler une photographie, une peinture, autre chose, qu'avec la coproduction, si on peut dire, en tout cas la co-réalisation de celui qui la regarde, un peu comme Blanchot pouvait le dire d'un livre, et le dit d'une manière infiniment claire, enfin, je crois que tout le monde peut l'entendre, à savoir qu'une image... pour le coup, si elle est le produit à partir du visuel, parce que le visuel ne suffit pas, les yeux ne suffisent pas à voir. Mmh. Il faut encore
que... Il ne suffit pas d'avoir des yeux pour voir.
Et non, pas du tout. C'est la fameuse, voilà, cette fameuse phrase d'Héraclite. C'est-à-dire qu'il faut qu'un esprit accueille ce que le regard voit et en fasse quelque chose. Et c'est là que tout commence. C'est là que l'image prend naissance, mmh, pour moi, dans cette hypothèse. À la suite de cela, effectivement, j'ai appelé ce livre... écrit sur l'image, parce que pour certains chapitres, ils ont été faits donc intentionnellement pour ce livre, en tout cas pour le, comment dire, le lui donner plus d'assises ou plus peut-être de largeur de panorama, mais pour d'autres, ils étaient écrits séparément. Donc il y a bel et bien des écrits qui ont été rassemblés là, mmh, et sur une période assez longue d'ailleurs. C'est d'ailleurs ça qui m'a encouragé à rassembler ces écrits sous forme de livre, c'est que sur une période assez longue, ils avaient marqué mon regard après tout. Après avoir écrit, je veux dire, je commençais à voir depuis ce qui s'était écrit là. Et donc, à la fin, ben, tout ça devenait assez cohérent, bien qu'éparpillé. Et j'aimais bien ce côté éparpillé, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres livres maintenant, c'est-à-dire le fait de ne pas produire une démonstration, mais de produire des éclats avec, à l'intérieur, leur propre, disons, présence de ce dont ils parlent.
Ça serait une sorte de dialogue avec le visible que vous auriez écrit.
Oui, ah, c'est ça, un dialogue avec le visible. Sachant que le visible ne répond pas toujours à la question du « qu'est-ce que je vois ?». Donc il faut se déplacer soi-même, enfin, se mettre de l'autre côté du champ. Par exemple, c'était incroyable comme le visible, le domaine du visible, est quelque chose qui est présenté comme allant de soi. Donc, par exemple, bon, il y a ce texte sur les femmes afghanes. C'est vrai que, sans aucune malice, une association donc, qui se préoccupait de lutter pour la libération des... Sinon, la libération, en tout cas, pour plus de liberté pour les femmes afghanes, donc, c'était donné comme effigie une femme avec une burqa, donc avec une sorte de voile grillagé de tissu. Et donc, disait, ça n'est pas possible, donc on ne peut pas voir leur visage. Donc c'est ça la répression. Mais la répression, ce n'est pas de ne pas pouvoir voir le visage. C'est une répression qui est faite donc à des civilisations qui ne supportent pas de ne pas voir. Par contre, on peut escompter qu'on n'ait pas envie de se montrer aussi. Bon, que ça ne peut pas aller de soi. Donc il faut passer de l'autre côté et se demander si fondamentalement cette évidence tient le coup, à savoir est-ce que c'est un droit de l'homme que d'être visible, ou alors est-ce que c'est un devoir du capital. Ça, c'est une autre histoire. Peut-être un devoir de la marchandise de rendre tout visible, et pas du tout un droit de l'homme, comme on a tendance à le faire passer. Quoi.
Ouais. Voilà. Mais à la question du visible, vous répondez, vous, c'est l'invisible qui fonde l'image.
Oui, c'est au fond ça le... Ce qui fonde tous les textes qui composent ce livre, c'est un peu ça. Alors progressivement, on va vers, vers les deux derniers chapitres qui l'établissent. Bon, il me semble un peu mieux, mais c'est peut-être aussi bien dans la façon de regarder le cuirassé Potemkin, par exemple. Si on tient compte de ce film, c'est précisément de l'invisible qu'il traite, c'est-à-dire des masses supposées être le sujet de la révolution à venir par Marx, Lénine, en tout cas aussi par ceux qui ont conduit la révolution d'octobre. Donc, ça veut dire que un sujet qui est à la fois invisible et le sujet de l'histoire. Donc voilà que notre histoire, en tout cas dans la pensée marxiste, était menée par un sujet invisible et dont le corps était à la fois chacun et personne. Et le cinéma va permettre de matérialiser ce corps. Et là, ça devient très intéressant de voir qu'un art nouveau, la peinture n'aurait sans doute pas pu le faire, mais le cinéma peut le faire parce qu'elle met ce corps en mouvement historique, c'est-à-dire elle lui donne à la fois la possibilité de se métamorphoser, de se transformer, mais en même temps, elle inclut le spectateur à l'intérieur. C'est-à-dire que le cinéma, c'est une assemblée humaine qui regarde, pour le coup, ce qu'il advient d'une autre assemblée, d'un autre peuple, etc. Et que donc, on ne regarde pas ça individuellement. Et en plus, c'est un art à la fois de masse, donc plutôt populaire, dès le départ, donc qui ne suppose pas des frais absolument considérables. Donc Charlie Chaplin est peut-être un héros absolu du XXe siècle parce qu'il était directement accessible en tant que personnage et en tant que personnage de film, d'art. Donc. Donc, si on prend cet exemple, on voit là que quelque chose qui est invisible, mais à qui est confié le devenir du monde, peut être matérialisé par l'image. Mais on peut continuer ailleurs. Ça, c'est un côté, on pourrait dire, bon, extrêmement, enfin, comment dire, un exemple lourd. Mais on peut prendre des exemples plus légers. Par exemple, se poser la question, est-ce que ce n'est pas l'invisible objet de l'image ? Puisque chaque fois qu'une image manifeste quelque chose, je ne dis pas qu'elle manifeste la réalité, qu'elle manifeste quelque chose, que quelque chose est à l'intérieur, il y a toujours quelque chose d'autre qui n'a pas eu son image. Donc, il va falloir produire des supports de visibles pour générer mentalement, donc à ce moment-là, avec l'aide de celui qui les regarde, gérer des images de choses qui jusque-là n'en ont pas. Alors, si on prend par exemple l'image de la Terre vue de la Lune, c'est une image étrange parce qu'elle ne fait référence à aucune forme d'expérience commune, contrairement à un portrait de Marilyn Monroe, par exemple. Mais en même temps, elle fait référence à un imaginaire extrêmement, construit, qui est nos cours de géographie, par exemple. Et puis, tout ce qu'il y a eu autour des découvertes et tout ce qu'il y a eu comme lutte, comme drame, comme tragédie autour de la question de la création de l'univers. Donc, qu'une photographie arrive et montre la Terre comme vue de loin, et non pas voyant, parce que jusque-là, la Terre voyait l'univers, mais là, voilà qu'elle est vue. Mmh. Et elle est vue par qui ? On ne sait pas. Elle est vue par on ne sait pas. Elle est vue par nous, ouais. Regardons.
Mais alors, par les temps qui courent, cette question du visible et de l'invisible, Jean-Paul Curnier, est en première ligne, car c'est un véritable déchaînement imagique, comme vous le dites, qu'on assiste et qui s'est emparé du monde.
Oui, alors ça, c'est là qu'il faut peut-être introduire une sorte de chemin de traverse, pratiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, les images sont... Elles ne sont pas, d'ailleurs, un objet de commerce, mais le commerce même du monde. Le monde en tant qu'objet de commerce. Donc, l'image est ce par quoi le monde aujourd'hui existe. Et tout existe. Et ça, je crois qu'on est assez nombreux à l'admettre. Enfin, je ne vois pas trop d'obstacles. Ce qui, par contre, est plus, comment dire, est plus inquiétant, c'est la disparition de l'image. C'est-à-dire, lorsque l'image est à ce point asservie à une finalité singulière, qu'elle soit donc de manifester le monde comme objet de commerce ou comme donc d'information, enfin, c'est à peu près la même chose. L'image est asservie. Et si l'image est asservie, ça veut dire qu'elle perd toute sa qualité singulière d'être l'image à un moment donné de quelque chose. Alors on peut faire aussi le pari que, un, l'image est en danger parce que, un peu comme disait Jean-Luc Godard, elle est toujours légendée, enfin, il y a toujours quelque chose dessous qui organise la vision et qui donc soustrait à notre vision tout ce que nous pourrions voir, pour nous demander de voir ce qui est légendé. Et de ce point de vue-là, effectivement, les images sont de plus en plus des commentaires tacites sur le monde. Elles sont même souvent extrêmement morales, au goût contemporain, au goût donc de l'actualité des échanges. Mais en même temps, on peut faire aussi le pari que l'image reste une forme de gratuité. Alors ça devient beaucoup plus intéressant. Ça veut dire que depuis Lascaux, la gratuité que nous offre l'image, c'est que le moment de monde auquel nous avons accès, qui n'est pas le réel, n'est pas la réalité, mais ce moment qui est un moment qui peut être intense, comme lorsqu'on regarde une main négative, par exemple, dans la grotte de Koskher, par exemple, il y a quelque chose comme presque une défaillance de soi, tellement c'est vertigineux. La présence, pour le coup, dans la grotte Koskher, c'est plusieurs choses. C'est la présence des animaux, mais en même temps, à travers la présence de ceux qui l'ont peint, qui ont peint ces animaux, et notre présence. Du coup, voilà que des choses sont mises en court-circuit, une sorte de déflagration extraordinaire. Et peut-être qu'il faut regarder toutes les images, un peu comme nous regardons Lascaux. C'est-à-dire, quelqu'un a été là, mais a disparu, qui nous a laissé face à ce qu'il a vu et que nous voyons. Et donc là, il y a une chaîne humaine avec un court-circuit extrêmement rapide qui, à mon sens, peut et échappe définitivement à tout commerce.
Est-ce qu'on peut le considérer comme une démonstration, ce livre que vous avez intitulé « Montrer l'invisible » Jean-Paul Curnier, et qui paraît chez Jacqueline Chambon?
Non, non. Un parcours. Je dirais que c'est un parcours, une promenade. C'est une promenade parmi les images, parmi les supports visuels. Et une promenade comme on, avec le rythme du promeneur. Tiens, j'imagine un rythme mental philosophique qui serait le rythme du promeneur. Et une ambition qui est celle de passer un bon moment dans la promenade, c'est-à-dire de renforcer un peu plus la présence du monde à travers le discours sur les images. Peut-être intensifier encore tout ce qui se désintensifie par le seul fait de faire une promenade.
Une promenade en huit chapitres,
oui.
Hein, où vous abordez des thèmes extrêmement variés, comme la question des ruines par lesquelles vous ouvrez le livre, le romantisme et le nazisme, la disparition, le deuil impossible des disparus et des kidnappés, les femmes voilées d'Afghanistan, vous le disiez tout à l'heure, le traitement des masses au cinéma, et d'autres encore.
Oui, cette promenade, oui, ça ne veut pas dire pour autant que je n'aborde que les choses frivoles et sympathiques. D'ailleurs, il n'y en a aucune de frivole et sympathique que j'aborde directement de front. Mais une promenade dans ce sens veut dire il n'y a pas là, pour moi, un enjeu qui serait, par exemple, la condamnation des images de la société, du spectacle ou de la civilisation de l'image. Non, c'est justement ça se déplace par rapport à ces façons, je dirais, ces attitudes politiques, intellectuelles. C'en est une autre, la mienne. Et cette attitude consiste à essayer de penser depuis nous la formation de l'image, c'est-à-dire de refaire le parcours par lequel une image entre... Enfin, une image devient image à partir du visible. Et donc, de le faire à partir de choses, si possible, quand même difficiles d'abord. Par exemple, le cinéma du Troisième Reich. Par exemple, effectivement, le portrait des disparus que les maires de la place de Mai tendaient à tous les jeudis sur la place.
Et c'est avec la disparition qu'on voit bien à quel point l'invisible fonde l'image.
Et comment, d'ailleurs, la disparition est une des formules d'arraisonnement les plus redoutables. Quoi. Un arraisonnement qui n'est pas une torture, c'est une douleur infligée qui est l'indécidabilité entre la mort et la vie d'un proche qui ne tient plus qu'à celui qui est proche. Je dois décider de faire le deuil ou je dois décider que non. Mais rien ne vient jamais attester que celui-ci ou celle-là est mort ou morte, ou est disparu, il reviendra. Ouais. Et c'est donc une mise en tension qui est effectivement une forme, je crois, d'arraisonnement et de torture mentale qui est absolument incroyable. Et qui, bien entendu, s'est appliquée là, et en sachant les résultats qu'elle a eus, on peut s'attendre à ce qu'elle ressurgisse ailleurs.
Et une mise en cause de la thèse selon laquelle la photographie serait une attestation de mémoire.
Oui, parce que justement, là, c'est une attestation selon laquelle, au contraire, c'est une mise en flottaison de tout. Est-ce que c'est une photographie du mort ou est-ce que c'est une photographie du vivant? Et c'est quand même pas rien, pour le coup. Si c'est une photographie du mort, le regard que j'y porte est celui du disparu, au sens du mort disparu. Sinon, c'est le regard sur celui que j'investis d'un désir d'apparaître à nouveau.
Le portrait du disparu, ça peut pas être le support d'un deuil.
Non, justement pour ça que c'est douloureux. Parce que ce n'est parce qu'il y a il y a une clé à cette énigme, mais qui la tient? C'est pourquoi les maires de la place de Mai d'ailleurs criaient régulièrement pour que quelqu'un réponde, parce que c'est insoutenable évidemment. Et le fait d'être collectivement dans cette situation, évidemment, a mené à désigner plus facilement le pouvoir, parce qu'il est évident que ceci était le fait d'une politique et d'une politique tout à fait concertée et réfléchie.
Comment voir l'invisible? Alors, Jean-Paul Curnier, puisque c'est une contradiction dans les termes.
Oui, comment le montrer, donc? Alors, l'idée, c'est un petit peu... Ça nous amène à reconsidérer ce qu'on appelle un peu familièrement la réalité. Parce qu'on appelle familièrement la réalité, c'est un peu un degré zéro des choses et du monde. Comme s'il y avait la réalité, puis après, il y avait les apparences, puis après, il y avait manipulation des apparences. Puis après, il y avait la fiction, etc., etc., etc. Mais le problème, c'est que la réalité, ça ne tient pas facilement comme concept. C'est une convention à partir de laquelle on peut humainement, éventuellement, s'entendre. Mais de quelle façon et jusqu'où?
C'est une croyance?
Pour moi, c'est une croyance, oui. Et donc, peut-être que, comment dire, l'objet de cette croyance, on l'approche avec l'image, justement. Je crois que le frisson, le frisson d'intensité de présence que l'on peut ressentir à la vue de telle chose, donc sous la forme de l'image qui se compose, ce frisson de présence, c'est la présence de plus que de cette chose, de toute la part invisible de cette chose, et qui fait que cette chose est pour nous quelque chose, et pas rien du tout. Que ce paysage est paysage, que ce visage est un visage, que ce geste est un geste. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout à fait invisible. Et pourtant, l'image ne le manifeste pas, n'en donne aucune apparence, mais les apparences qu'elle produit nous donnent accès à quelque chose que nous appelons la réalité. Et là, nous nous rendons compte que cette réalité, nous sommes incapables d'en dire quoi que ce soit. Elle est justement l'invisible.
Mais la photographie peut donner une apparence à ce qui n'en a pas?
Non. C'est-à-dire, là, elle peut donner une... Elle ne peut pas donner, par exemple, si je prends cette phrase, par exemple, elle ne peut pas donner d'apparence à la misère économique. Elle peut donner, à partir des clichés, ou en tout cas de ce qui est sous-entendu comme étant un décor de misère, un bidonville, des choses trouées, un appartement en décombre, tout ça donne évidemment une idée de la misère. Mais ça, c'est une convention spectaculaire. On peut être absolument malheureux et assis seul au milieu d'un champ. Et alors là, il n'y a plus donc possibilité de montrer. Alors comment on va montrer? Justement, quand on va vouloir montrer, c'est le cas si on prend la photographie de Walker Evans de la Farm Security Administration. Donc pendant la crise des années 30 aux États-Unis, voilà un photographe, on peut dire reporter, mais enfin avec un mandat de l'administration américaine et d'autres, Dorothy Lange, etc. Bon, ils partent pour photographier ces hommes, ces femmes, ces familles qui sont déportées par la famine, par la misère, quoi, et qui étaient jusque-là des agriculteurs. Et ils photographient ces gens pour attester de la grande misère. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Une immense beauté. Et nous voilà dans quelque chose de tout à fait étrange. Lorsqu'on regarde les visages photographiés, les visages donc de paysans pauvres, acculés par la famine à lâcher tout, la ferme, le troupeau et tout, il y a dans leur regard, dans leur allure, dans leur une prestance, une dignité, une beauté qui est absolument enviable. Et voilà ce que fait la photographie. Elle vient de photographier l'invisible. Ce que la misère nous cachait, c'était la beauté enviable de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants.
Et vous pensez que le progrès technique qui s'applique particulièrement à la photographie, par exemple, va nous permettre de voir l'invisible?
Est-ce que nous pourrons toujours le voir? Toute la question vient de cette façon de voir, c'est-à-dire du fait que les yeux ne suffisent pas. Ce qui me semble peut-être s'user un peu, c'est la faculté d'être seul devant une image. C'est un peu comme dans les musées aujourd'hui où on a mesuré, je crois, quelqu'un a eu cette idée, et elle n'est pas si mauvaise parce que le résultat est totalement atterrant. Je crois que les gens restent 20 secondes devant un tableau. Et moi, je voulais toujours avoir une demi-journée et je préférais revenir le lendemain, ce qui me paraissait... Et je ne comprends pas comment on peut passer 20 secondes devant un tableau parce que là, il est certain qu'on ne voit rien du tout. L'image n'a pas eu le temps de se former, c'est pas possible. Donc voilà le danger, je dirais, de l'image. Sinon, les images peuvent toujours montrer de l'invisible. Tout le temps, tout le temps. L'invisible ne cesse pas.
Est-ce que vous pensez que le passage au numérique va modifier les choses?
Je crois que le passage au numérique va continuer le programme de la peinture. Je veux dire par là que la photographie n'est pas sortie de l'ancien programme de la peinture, c'est-à-dire du programme imagique. Constituer l'image comme vicariance et comme présence ici de ce qui est là-bas, ou qui a été avant, ou qui sera plus tard. La photographie y a ajouté, je dirais, un paradoxe de l'illusion, c'est qu'elle a constitué dans un champ d'illusion, qui est celui de la présence de quelque chose qui n'est pas là, un indice de de référence qui est un indice de réalité, puisqu'il a bien fallu que la chose existe pour que son empreinte lumineuse ait lieu. Et évidemment, ça a permis de compliquer un peu les choses. On ne pouvait pas, du coup, affirmer que le réel était aussi facilement une fiction. Et pourtant, ça ne change rien du tout, pour moi, au statut de la réalité qui reste une fiction ou une convention. Un rêve, peut-être. Avec le numérique, je crois que ce qui se produit, c'est qu'évidemment, d'un côté, on voit tous les gens peuvent faire des photos. Oui, bien sûr. Tous les gens peuvent retravailler les photographies, inclure qui ils veulent à l'intérieur. Ben, ils font de la peinture. Ils sont en train de se rapprocher de plus en plus de la peinture, parce qu'avant, la photographie ne permettait pas, sauf chez Staline, par exemple, où on pouvait sortir un personnage gênant de la représentation du portrait de famille et du bureau politique. Là, on peut le faire chez soi. Eh ben, comme on peut chez soi crayonner le portrait qu'on a fait de la vieille tante et lui faire, je ne sais pas, la faire voisiner avec un chat qui n'est pas là. Mmh. On est dans le programme de la peinture.
À la fin de votre essai, vous vous demandez comment éviter que l'image ne soit broyée par la société de marché, par la consommation. Mmh. Et vous répondez en disant qu'il faut miser sur la puissance souterraine des images, sur leur capacité d'étrangeté.
C'est-à-dire cette espèce de frisson qu'on appelle beauté. Et je me pose toujours un peu la question, qu'est-ce que c'est que la beauté d'une image? Si les images étaient exactement le réel, elles ne seraient pas plus belles que le réel. Elles seraient le réel lui-même. Elles seraient même un peu moins belles, parce qu'il leur manquerait toujours la profondeur, les odeurs, la température, tout. Donc si une image peut être plus belle, parfois plus belle que la réalité, et la plupart du temps plus belle que la réalité, c'est quand on le dit d'un portrait réussi, c'est qu'on le considère comme plus beau que soi-même. Enfin, moi, quand je dis, tiens, ça c'est une belle image, c'est qu'elle me ressemble peu, d'après moi, mais en mieux. Donc, ça veut dire qu'il y a un frisson, là, je ne parle pas des portraits de soi, mais par rapport aux images, ça peut être des images de ce qu'on voudra, il y a un frisson. Un frisson que je liais tout à l'heure, mais en m'appuyant aussi un peu sur Benjamin, sur cette histoire que. Les images contiennent déjà toutes les possibilités de ce que nous appelons la réalité. Comme pour Benjamin, le langage contient toutes les possibilités de la pensée. Après, tel penseur les effectue à sa façon ou en effectue une trajectoire. Moi aussi, tout le monde, vous aussi. Enfin, on travaille à l'intérieur du langage des possibilités. Et on les assortit, on les enchaîne, ou on les coupe. Et ça, on est loin d'en avoir fini. Pour les images, ce sera un peu pareil. Elles contiennent tout un tas de possibilités de frissons, ou en tout cas de présence de la réalité, ou de cette fameuse réalité, c'est-à-dire cet indice à quelque chose qui est au-delà des choses, qui est au-delà du tangible. Et je pense qu'effectivement, le danger, c'est peut-être la trop forte pas présence d'images, puisque ce n'est pas des images, c'est des supports visuels, comme ça, des stimulations visuelles. Mais aussi bien, c'est comme un. Comment dire, c'est comme une saturation qui laissera du temps. Il arrivera un moment, et ça arrive déjà maintenant, où au milieu de ce fatras visuel, il y a tout à coup une image qui se dessine. Et cette image n'est pas forcément en soi une valeur supérieure aux autres.
Un mot pour finir, Jean-Paul Curnier, de l'autre livre que vous publiez en même temps que Montrer l'invisible. Alors c'est un livre intitulé Le commerce des charmes, qui est coédité par Ligne, et le 104, ce lieu culturel parisien. C'est un texte étrange, atypique, comme bien souvent vos textes, à plusieurs voix, qui résulte en fait d'une résidence au 104, qui date déjà d'un ou deux ans, je crois.
Oui.
Et ce texte, il est désigné comme roman.
Oui. Il y avait quelque temps déjà que je me posais la question, parce qu'on me l'a posée, alors finalement, je trouvais que je n'avais pas à la récuser, mais la question de, mais au fond, pourquoi ces écritures différentes? Pourquoi vous écrivez Peine perdue, qui est une sorte de suite comme ça de contes
Nourou
à l'envers?
En trois volumes.
Oui, en trois volumes. Ensuite, donc, des textes philosophiques sur l'actualité, parfois même véhéments. Et puis d'autres extrêmement doux, très poétiques, des promenades justement. Bon, qu'est-ce que c'est que ces affaires-là? Bon, alors, ces affaires-là, elles tiennent au fait que je ne me suis jamais, efforcé de me rassembler. Bon, je crois qu'on est tous naturellement épars. et que le langage que j'ai adopté pour les choses est aussi un peu le langage de ces choses-là. Il ne me serait pas venu à l'idée de parler d'une situation que je crois déplorable, sans y faire de l'humour, sans le raconter avec un style qui, justement, ne soit pas déplorable comme ce monde-là. Donc il y a ce rapport-là par rapport au monde. S'il s'agit, par exemple, des détours autour des minima moralia, de l'idiotie, etc., donc pour peine perdue, alors là, c'est tout autre chose. Il s'agit d'une douceur infinie pour tout ce qui est petit dans le monde, tout ce qui est petit comme événement. S'il s'agit ici de montrer l'invisible, c'est un cheminement. Je profite du fait que je pense à l'image depuis longtemps et justement pour en parler un peu, enfin aller le plus loin possible de là où je suis allé, puisque c'est pour d'autres qui le diront. Alors, montrer l'invisible était terminé depuis longtemps. Le commerce des charmes, donc, après cette invitation qui m'avait été faite par Robert Cantarella et Frédéric Fischbach, et donc c'était le tout début où ils étaient en poste, donc ils avaient demandé à quelques écrivains s'ils voulaient être en résidence. Alors en résidence, le lieu n'existait pas du tout, il n'y avait que des pelles mécaniques et des trous. Et c'était les anciennes pompes funèbres de la ville de Paris. Voilà. Donc, c'était plutôt sur le quartier. Et moi, quelque chose, travailler ça, alors j'essayais de voir par quel bout, qui était de rassembler un jour ces textes pour aboutir à quelque chose qui était le but de ce livre et qui sera peut-être celui de quelques-uns qui viennent, d'en finir avec le point de vue unique du narrateur. C'est-à-dire d'évacuer la question du point de vue du narrateur comme identification possible du lecteur, c'est-à-dire comme conducteur de la lecture des faits, des événements. D'être moi-même la narration de certains éclats, d'être, la parole, ou de me transfigurer dans la parole de certaines choses, les voix, les fameuses voix, que ce soit le gros garçon, que ce soit les voix de narration, les voix de l'hôte, etc. Et, ou les voix politiques qui sont parfois extrêmement véhémentes, ou des voix de prédicateurs. Parce que tout cela, c'est un peu soi aussi, mais simplement remis dans les textes avec sa logique propre, donc c'est un éclatement surintensifié, voilà, porté un petit peu plus à son extrême.
Et ça s'appelle roman parce que c'est la production d'une réalité.
Voilà, c'est tout simplement la production d'une réalité par d'autres moyens. Et c'est-à-dire en faisant l'économie du narrateur comme point de vue unique et en replaçant la narration du côté de celui qui voit tout le panorama des éclats et des voix.
Deux livres de Jean-Paul Curnier, Le commerce des charmes, coédition Ligne et Le 104, et Montrer l'invisible, écrit sur l'image, aux éditions Jacqueline Chambon. Du jour au lendemain, Pierre Mine, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.